Décembre. Une date un petit peu étrange, une date dans l'entre-deux, entre Noël et Nouvel An. On est proche de 2025, mais on est encore en 2024, et je me disais que ce serait peut-être l'occasion de faire un retour sur 2024. Alors, pas un bêtisier, même si il pourrait être fourni en ce qui me concerne, mais pour savoir comment nous allons la regarder, cette année 2024, quelle attitude? Est-ce qu'on va voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Dans quel esprit êtes-vous ce matin par rapport à 2024, en ce beau dimanche d'hiver? Où ça, l'hiver? Et je vous propose ce matin de lire avec nous, avec moi, ce récit de l'Évangile, alors qu'il, Jésus, se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. On est au nord d'Israël. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas. Il se retourne. En louant Dieu à pleine voix, il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain, en bisbille avec les Juifs du Sud. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu? Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Se retourner sur 2024 et dire merci. Comme ce 10e lépreux, à moins que ce soit le premier, en tout cas 1 sur les 10, qui se retourne pour dire merci à Jésus. C'est pas facile de dire merci, et parfois ça peut être une question d'éducation. Vous connaissez Arnold Schwarzenegger, celui qui jouait, enfin moi je l'ai découvert dans Conan le Barbare, dans les années 80, je crois. Et puis après, il a joué les premiers titres de Terminator, beaucoup moins bon que Conan le Barbare. Mais bon, c'est le type hyper musclé que vous voyez sur l'image. Et non, ce n'est pas moi, c'est lui. Arnold Schwarzenegger, admirez le biceps et le deltoïde, enfin bon, bref. Eh bien, ce cher Arnold raconte que lorsqu'il avait 15 ans, il y a son entraîneur et ami, lui donnait des conseils et il lui a dit d'arrêter d'aller à l'église. Et cet ami s'appelait Helmut Knorr, un petit peu comme les soupes qui font grandir. Mais il lui dit d'aller à l'église et je cite Arnold, « Helmut insista sur le fait que si j'arrivais à quelque chose dans ma vie, je ne devrais pas remercier Dieu, je devrais me remercier moi-même. » Surtout, ne pas dire merci à autrui et à Dieu encore moins. Et j'ai la suite de la citation. Il a dit que si je voulais un corps magnifique, je devais le construire, personne d'autre ne pouvait le faire, Dieu encore moins. Voilà, c'est dit, ça c'est une belle illustration hein, pour les prédicateurs. Et Arnold a suivi le conseil, il a annoncé à sa famille en Autriche hein, qu'il n'irait plus à l'église et qu'il n'avait pas de temps à perdre, pas de temps à perdre à dire merci. Alors c'est le genre de conseil que l'on donne dans les salles de bodybuilding et peut-être dans d'autres salles de la vie. Il ne faut pas dire merci, il faut se faire soi-même, prendre ce qui t'est dû. Même l'agriculteur endurci pourrait se dire qu'il est normal qu'il moissonne puisque c'est lui qui a semé. Le commercial peut aussi se dire que s'il a beaucoup d'argent, c'est parce qu'il a beaucoup et bien travaillé. L'étudiant modèle peut aussi se dire que s'il a réussi ses études, c'est parce qu'il a beaucoup révisé. Dans beaucoup de domaines, la seule personne à remercier serait soi-même. Dire merci à d'autres, et en l'occurrence à Dieu, ne serait somme toute pas très utile. Selon notre Terminator bien-aimé, ce serait même mauvais ou handicapant de dire merci à Dieu si on veut réussir sa vie. Ça, c'est la parole d'Arnold Schwarzenegger avec ses biceps surdimensionnés qui a terminé gouverneur de Californie. Et à mon avis, quand même, pour devenir gouverneur, il a dû apprendre à dire merci. Bon, bref. Mais Jésus a une autre parole qui est légèrement différente de ce qu'on entend dans les salles de bodybuilding et dans la vie. Une parole qui vient dans cette histoire que Jésus va vivre avec 10 autres personnes. 10 personnes en besoin. Il faut savoir qu'à l'époque, le lépreux est loin, être lépreux, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. La lèpre, c'est une maladie extrêmement invalidante. Le malade porte des grandes taches blanches sur le corps, il ne sent pas le bout de ses doigts, ni de ses orteils, alors les rats, la nuit, viennent manger le bout des doigts, le bout des orteils, sans qu'ils s'en aperçoivent. Et donc les lépreux sont souvent infirmes. La lèpre est une maladie terrible, et en plus elle est contagieuse. C'est pourquoi les lépreux vivaient à part, en communauté de lépreux. Une clochette suspendue à leur cou avertissait de leur présence les bien portants qui se tiennent alors à distance. On se souvient, ils sont en perpétuel confinement, les lépreux. Et cette notion de distance est soulignée dans le récit. Lors du dialogue avec Jésus, les 10 lépreux se tiennent à distance. Verset 12. Ils restent loin, et de là, à distance respectueuse, ils interpellent Jésus. « Hey, Jésus, fais quelque chose pour nous !» Ils ont dû entendre que Jésus faisait des trucs pas mal. Alors ils tentent leur chance, on ne sait jamais si ça marche. Mais Jésus va leur dire, comme c'est souvent le cas, quelque chose d'assez étrange. Je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure lors de la lecture. Il va leur dire, allez voir les prêtres. Il ne leur dit pas, je vous guéris. Il dit, allez voir les prêtres. Et on imagine que les prêtres sont les spécialistes de la question, les gens qui sont compétents dans le domaine. Allez les voir, prenez la route. Et encore plus étrange, les 10 malades y vont. Il n'y en a pas un pour questionner Jésus et dire, mais Jésus, tu pourrais pas nous guérir directement, en temps réel? Non. Ils discutent pas, ils y vont. Et troisième élément étrange en ce récit, ils sont guéris en chemin, alors qu'ils sont en train d'y aller. Ils ne sont même pas encore arrivés à destination qu'ils voient disparaître leurs taches blanches sur le corps. Ils sont plus infirmes, ils sont tous guéris, ils laissent tomber leur canne et se mettent à danser de joie et s'embrassent. C'est une nouvelle vie qui commence pour eux, c'est trop chouette. Mais c'est alors que vient la question du merci. Combien pensez-vous qu'il y en a eu pour se retourner et remercier Jésus? Moi j'aurais dit au moins la moitié quand même. Mais non, pas la moitié, ni le tiers, ni le quart, 10% seulement. Avec 10%, vous gagnez aucune élection. Vous passez pas le premier tour. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les 9 autres? Alors toutes les hypothèses sont permises. Peut-être que 2 ou 3 ont complètement zappé l'histoire et qu'ils ont même oublié la phrase de Jésus. Ils étaient tout à la joie de la guérison, tout s'est effacé des tablettes. Peut-être que 2 ou 3 autres y ont pensé, mais que c'était, ils se sont dit, c'est pas vraiment utile que je refasse tout le chemin pour aller remercier ce Jésus, ils avaient bien d'autres choses à faire que de dire merci. Ils avaient une nouvelle vie à commencer. Peut-être que les deux, trois autres qui restaient, hein, j'arrive à trois tiers presque, et se sont dit que leur rétablissement ou leur guérison relevait certainement d'un heureux concours de circonstances, et que Jésus n'avait rien à voir là-dedans. Alors, on peut penser qu'il y avait ça dans leur tête, ou peut-être autre chose, mais peu importe, ce qui nous intéresse, c'est celui qui revient. Et avec lui, on va pouvoir parler de la place de la reconnaissance dans la vie. Un seul qui dit merci. Et le récit nous raconte que tout au long du chemin du retour, il est en train de chanter et de louer Dieu. Et je l'imagine en train de chanter le cantique que vous connaissez peut-être. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines. Et... Ben, bref. Donc il chante, il gambade. Je trouvais une expression. Et puis quand il voit Jésus, il se met à genoux et il remercie. Ce lépreux guéri, ce samaritain de surcroît, il est à fond dans la reconnaissance. Il loue Dieu et remercie Jésus. Et Jésus va dire encore une fois quelque chose d'un petit peu étrange. Relève-toi et parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. Vous noterez qu'il n'est plus question de guérison. Mais de salut, guérir et sauver, ce n'est pas la même chose, quoi qu'en disent parfois certains mouvements religieux qui confondent guérison et salut. Guérir, c'est pour un temps, mais sauver, c'est pour toujours. C'est important de le souligner. Jésus lui-même les distingue. Mais une question se pose, pourquoi lui, celui qui a dit merci, est sauvé ? Et pourquoi les autres sont simplement guéris ? Eh bien, parce que en faisant demi-tour et en parcourant ces quelques kilomètres pour dire merci, cet homme, il est rentré dans une relation avec Jésus. Pour les neuf autres qui n'ont pas fait le chemin de la reconnaissance, Jésus reste un simple guérisseur, un thaumaturge. Comme on dit pour les spécialistes, il reste simplement un souvenir lointain, quelqu'un que l'on a vu à distance respectueuse. Mais pour le dixième homme, parce qu'il est revenu dire merci, Jésus devient quelqu'un de proche. Il y a eu contact, il y a eu véritable relation, et cette relation change tout, et c'est une relation qui sauve. Dire merci peut nous faire rentrer dans une relation qui sauve. Avec ce dixième lépreux qui revient dire merci, on peut donc répondre à cette question, à quoi ça sert de dire merci, que parfois on se pose, le monde est ingrat, à quoi ça sert de dire merci ? Eh bien, dire merci nous transforme et nous rapproche. Et nous rapproche d'abord du Dieu de la grâce. Ça paraît évident que si on reste dans l'attitude de Schwarzenegger, à savoir que l'on prétende qu'on ne doit rien à personne parce qu'on s'est fait tout seul, c'est clair qu'on ne va pas se rapprocher de Dieu. Non pas parce que Dieu serait un être irascible et susceptible et qu'il voudrait absolument qu'on lui dise merci pour tout et n'importe quoi, mais parce que Dieu est simplement le Dieu de la grâce, celui de Dieu qui donne gratuitement. Comme on l'a célébré à Noël, c'est-à-dire le Dieu qui aime d'un amour sans mérite, d'un amour sans prétention. Cette grâce ne peut pas s'exprimer quand on est coincé dans le mérite, comme Arnold Schwarzenegger, tout ce que je fais, je me le dois à moi-même, je ne peux que remercier moi-même. Quand on reste drapé dans ses prétentions et omnubilé dans cette vision du monde basée sur les mérites, alors oui, on reste loin de Dieu, mais quand on se met dans cet esprit de reconnaissance devant Dieu, alors on s'approche de lui à grands pas. Et donc, entrer dans cet esprit de reconnaissance implique abandonner sa course au mérite, ses prétentions de self-made man ou self-made woman à la Schwarzenegger, Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se dénigrer continuellement, mais ce récit de la Bible nous invite à changer de paradigme et à reconnaître, c'est-à-dire connaître à nouveau la présence de Dieu dans sa vie et sa bonté. Entrer dans cet esprit de reconnaissance, c'est reconnaître tout ce que l'on doit à Dieu, lui dire merci pour son amour immérité et sa grâce. Alors oui, on s'approche de lui avec les bottes de sept lieues, on rentre dans l'intimité du Dieu de la grâce quand on apprend à lui dire merci. Mais dire merci nous rapproche aussi des autres, ou les uns des autres. Dans la famille, par exemple, quand les enfants se mettent à dire merci aux parents, même si les parents leur paraissent dépassés, ringards, pour ne pas dire plus, ça change tout. Quand les enfants devenus grands cessent de jouer au fils prodigue qui prend son héritage financier, culturel, éducationnel, spirituel, et il s'en va de la maison pour mettre la maison à distance, quand ses enfants reviennent sur leurs pas et dire merci aux parents, ben ça change tout, l'ambiance familiale change. Et vous, parents, comme dit la Bible, n'irritez pas vos enfants en exigeant d'eux des choses trop difficiles, et surtout des choses que vous n'auriez jamais pu faire vous-même, mais rentrez aussi dans cet esprit de reconnaissance. Merci Seigneur pour cet enfant unique dans son genre. Et si vous avez plusieurs enfants, ils sont tous uniques dans leur genre. Merci. Même s'ils disent pas toujours merci d'ailleurs. Merci pour eux. Pour tous ces enfants. Dans le couple, et aussi il faut réapprendre à dire merci. On sait déjà qu'à la longue, il y a des mots que l'on oublie de dire. On se dit que c'est sous-entendu, cela va de soi. Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant, comme on dit. Les mots comme « je t'aime », évidemment. Les mots comme « pardon ». Et puis les mots comme « merci ». Si vous vous plaignez sans cesse de l'autre, de sa cuisine, de son caractère, de la manière qu'elle ou il a de gérer son emploi du temps ou de gérer le budget familial, la distance va immanquablement s'installer. Pour ne pas dire que cette distance va devenir comme un gouffre. Et là aussi, il faut faire marche arrière et entrer aussi dans la reconnaissance envers son conjoint. Pas seulement pour ce qu'il ou elle fait, mais pour ce qu'il ou elle est. À savoir la personne que vous avez choisie pour faire votre vie. Oui, pour toutes les relations humaines, et puis dans toutes les relations avec les amis, au travail, dans l'église, dire merci peut transformer l'ambiance et nous a rapprochés les uns des autres. Mais il ne s'agit pas non plus de tomber dans une sorte de mécanisme du remerciement et dire merci à toute occasion pour que tout le monde vous trouve sympa. Non, il ne s'agit pas de dire merci mécaniquement, et surtout sans le penser vraiment, il s'agit de rentrer dans cet esprit de reconnaissance et de le faire avant tout devant Dieu, reconnaître Dieu, dire sa reconnaissance à Dieu. Et votre mission pour 2025, si vous l'acceptez, entrer dans un esprit de reconnaissance, ce n'est pas mission impossible, c'est mission tout à fait possible, par la grâce justement. De Dieu. Et c'est pas une option dans notre vie. Je pense que c'est vraiment, j'allais dire, une obligation. Si on veut que ça marche. Parce que nous sommes souvent dans l'oubli de ce que Dieu fait pour nous. On peut même oublier ce que Dieu fait volontairement. On peut ne pas vouloir voir son action dans la vie. On peut relativiser les bénédictions pour ne voir que les problèmes. On peut même aller plus loin et rentrer dans une ambiance de plainte perpétuelle à l'égard de Dieu, lui en vouloir de ne pas tout donner, tout et tout de suite. On peut aussi rester dans une ambiance de comparaison, compétition, avec où l'on tient une sorte de comptabilité de tout ce que l'on n'a pas et que les autres ont. Et ce genre de comptabilité nous enferme dans une jalousie qui nous isole les uns des autres au lieu de nous que la reconnaissance nous rapproche. Alors oui, on peut effectivement se tenir loin de cet esprit de reconnaissance, mais on doit aussi s'interroger sur le prix à payer dans ce genre d'attitude. Et le prix à payer, c'est celui de la proximité de Dieu, du Dieu de la grâce. Le prix à payer, si on ne veut pas rentrer dans cet esprit de reconnaissance, c'est celui de la communion, de la proximité avec les autres. Et la Bible nous invite à faire là aussi les quelques kilomètres qui nous séparent de la louange et de la reconnaissance pour rentrer dans une véritable relation à Dieu. Et il y a cette belle parole de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Soyez dans la joie, priez et remerciez Dieu en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que par la reconnaissance, nous soyons toujours en relation avec lui et avec les autres. En toutes circonstances, que l'on soit grand, petit, riche ou pauvre, jeune ou vieux, stressé ou calme, sportif ou plutôt branché jeux vidéo, que l'on soit mer ou montagne, remerciez Dieu. Parce que dire merci transforme la vie, nous rapproche les uns des autres et surtout de Dieu.